Maintenant, on va aller in medias res et je vais demander à notre premier conférencier, Monseigneur Athanas, de nous rejoindre ici. Quand on a commencé les préparations de cette conférence, la première personne que j'ai voulu avoir, c'est justement Monseigneur Athanas, que je connais pour avoir cette combination qui est très très importante chez nous, et d'une très bonne théologie, et d'une vie spirituelle sérieuse. Vous avez toute son description ici, il est bardé d'accomplissement, c'est peut-être pas très bon pour son humilité que je les mentionne tout. Pour le moment, il représente l'Église de Grèce auprès des institutions européennes. Et on est très très heureux de la vie que vous avez à voir entre nous. Je vous laisse la parole.
Je vous remercie, Père Michel. Je remercie le directeur de l'Institut pour nous avoir donné ce lieu magnifique pour la conférence. Je remercie son éminence, le métropolite Panteleïmon du patriarcat de Constantinople pour sa présence, son excellence l'archevêque Simon pour sa présence, et je remercie vous toutes et tous pour être venu aujourd'hui ici. On m'a demandé de parler de l'anthropologie orthodoxe face aux défis d'aujourd'hui. Et comme vous comprenez, c'est un thème immense. Je n'ai pas le temps de vous donner l'ensemble de l'anthropologie orthodoxe, mais quand même, on peut approcher un peu la pensée patristique d'Orion sur la notion de l'homme. Et je choisis deux thèmes importants qui nous donnent une idée de comment les pères d'Orion ont compris l'homme dans le cadre surtout du salut, dans le cadre de la christologie des pères de l'enseignement de l'Église d'Orient. Et les deux thèmes que je choisis, que je trouve importants, sont ce qu'on appelle « théosis » en grec. Ça veut dire, on traduit le terme « théosis » en français, soit comme divinisation, soit comme déification. Et puis, je veux vous parler de la notion de la personne. Divinisation ou déification, un terme un peu ambigu, mais c'est évident qu'il y a une théologie concrète, ce qu'on peut résumer dans la phrase donnée par saint Athanase d'Alexandrie: Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu par la grâce. Voilà la phrase qui résume le sens de la divinisation, de l'enseignement sur la déification. Le thème de la divinisation de l'homme occupe, dans la théologie des pères grecs, dès l'origine, une place essentielle. C'est un thème lié avec d'autres thèmes caractéristiques de la théologie patristique, notamment l'homme et le Christ, qui a pris une position centrale dans la spiritualité de l'Orient chrétien. La déification a été de tout temps le thème dominant de l'enseignement des pères de l'Église sur le salut, parce qu'elle est le plus éminent des dons que Dieu ait fait à l'homme, parce qu'elle est aussi la vocation finale de son existence ici-bas. Vladimir Lossky, un théologien d'origine russe du XXe siècle, note que, surtout, c'est saint Maxime le Confesseur, la déification, fin suprême à laquelle tend la volonté humaine, détermine tout le reste. La divinisation peut seulement être éprouvée par ceux qui en ont l'expérience. Ceux-là même qui en font l'expérience ici-bas n'en reçoivent que les arts et ne la connaissent que comme en un miroir, d'une manière confuse et imparfaite. Ce n'est que quand ce qui est parfait sera venu que ce qui est partiel disparaîtra. 1 aux Corinthiens. Et que tout sera parfaitement connu dans la vision face à face. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens. Le caractère dynamique de l'évolution de la révélation de Dieu en l'homme est exprimé dans un passage magnifique d'Irénée de Lyon. C'est précisément, dit saint Irénée, c'est précisément en ceci que Dieu diffère de l'homme. Dieu crée, l'homme est créé. Celui qui crée est toujours le même, tandis que celui qui est créé reçoit nécessairement un commencement, un état intermédiaire et une maturité. L'homme reçoit progrès et croissance vers Dieu, car autant Dieu est toujours le même, autant l'homme, se trouvant en Dieu, progressera toujours vers Dieu. C'est une tension sans cesse de tous les chrétiens vers l'absolu, quand Dieu sera manifesté par nous, divinisés, quand Dieu sera tout en tous. C'est ça que saint Irénée a dit. Ce devenir commence par la grâce du baptême, donnée à tous les fidèles considérés indistinctement. Le sceau du don du Saint-Esprit, à l'heure du baptême, marque la dynamique spirituelle de gloire de la nature humaine qui peut refléter l'image divine selon la deuxième lettre aux Corinthiens. Nous tous, qui le visage de voilé reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui est l'Esprit. Pour saint Maxime le Confesseur, cette transfiguration constitue le contenu de la divinisation effectivement accomplie selon la grâce divine, qui est toujours active par amour. La richesse de la bonté de Dieu, en tant qu'elle n'arrête jamais sa disposition divine et radieuse envers nous, selon la transformation pour la divinisation. Un théologien d'origine russe aussi, du XXe siècle, Jean Mayendorf, remarque que dans la divinisation, il y a une transformation de la nature humaine qui, loin de la supprimer comme telle, l'exauce et l'accomplit. Mayendorf écrit « L'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il participe à la vie divine et qu'il réalise en lui-même l'image des dieux. » Mais le progrès de la nature humaine ne peut pas être abstraite, il doit se manifester en une personne concrète. Ensuite, la grâce de la communion eucharistique est aussi pleinement donnée et divinisante. Cyrille d'Alexandrie écrit « En recevant en nous corporellement et spirituellement celui qui est le Fils véritable et par nature, substantiellement uni au Père, nous sommes glorifiés en participant et en communion à la nature suprême. » Le Christ apparaît comme celui qui est reçu en héritage par ceux qui sont dignes ou s'incarne en eux, ou encore comme celui qui est non seulement la source et le fondement ontologique de leur divinisation, mais encore son artisan personnel permanent. La réception de cette grâce se fait de manière diverse relativement à la différence des personnes, c'est-à-dire de son mode d'existence. Par la communion eucharistique, le fidèle est potentiellement divinisé, mais l'actualisation en lui de la grâce de la divinisation qui lui a été donnée en plénitude est relative à son progrès et à son état spirituel propre. La divinisation est à venir comme étant à réaliser par les chrétiens et comme liée à leur croissance spirituelle personnelle, comme s'accomplissant pour ceux qui en sont dignes dans les temps qui suivent l'incarnation et comme trouvant sa plénitude à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la dialectique du déjà et pas encore. La divinisation doit être une expérience vécue aujourd'hui dans le cadre de la possibilité humaine de l'homme qui vit sous l'influence des lois de la nature, mais il y a aussi un aspect eschatologique. La divinisation ne peut pas être comprise comme une réalité qui peut être complétée, accomplie dans ce monde. Voilà ce que je voudrais dire sur la divinisation. Maintenant, je voudrais aller au thème de la personne humaine, la notion de la personne. Et je choisis un théologien grec, le métropolite Jean Zizioulas, qui a écrit un livre traduit aussi en français, qui porte le titre « Du personnage à la personne ». Et là, vous trouvez une analyse magnifique de la notion de la personne selon la théologie patristique. Le salut est la survie éternelle de la personne humaine en tant qu'hypostase libre, unique et irrépétable. Ça se passe seulement quand la vie personnelle, réalisée en Dieu dans la Trinité, se réalise aussi au sein de l'existence humaine. Il ne suffit pas d'être un homme pour être une personne. Il ne suffit pas d'être un homme pour être une personne. La personne humaine se réalise dans le fait du salut, dans la réalité de la vie divine. C'est la conséquence de la participation à la vie trinitaire. Ça veut dire que la personne humaine se manifeste uniquement si l'homme est sauvé ou bien déifié. Alors, à ce point, il faut parler sur le concept de la personne. Et le métropolite Jean Zizioulas formule une théorie de deux modes d'existence pour nous faire comprendre la notion de la personne. Il parle d'un côté du mode d'existence qu'on appelle biologique et du mode de l'existence qu'on appelle ecclésiale. Je vais vous présenter un résumé de sa pensée et de sa théologie. On pourrait appeler donc le premier mode, hypostase de l'existence biologique. Jésus l'a écrit. Hypostase de l'existence biologique qui est constituée lors de la conception et de la naissance de l'homme. La caractéristique de ce mode d'existence est qu'elle est le produit d'une nécessité ontologique . Tout homme venant au monde porte son hypostase qui est dépendante de l'amour comme un acte instinctif résultant à la communion de deux êtres. L'homme n'est pas amour ontologiquement, mais il s'exprime en amour instinctivement, pas affectivement en termes des sentiments et sensibilité. Dans ce sens, la personne considérée en tant qu'être humain existe non comme liberté ontologique, parce que si elle tente d'élever la liberté au niveau de son absoluité ontologique, elle affrontera le dilemme de l'anéantissement, toujours du point de vue biologique. Il est impossible à l'existence créée, à l'homme comme créature, d'éviter la nécessité ontologique lors de la constitution de l'hypostase biologique. Pour que la personne devienne liberté ontologique absolue, elle doit absolument s'enraciner en une réalité ontologique non affectée par l'état d'être créature. Elle doit dépasser l'empêchement de l'instinct qu'il a porté à sa naissance biologique. Ça veut dire que la liberté nécessite une naissance d'en haut, ce que l'évangéliste Jean écrit au troisième chapitre de son évangile. Une naissance d'en haut, comme le proclame et l'annonce toute la christologie patristique. Un autre empêchement à l'hypostase biologique, pour qu'elle devienne une personne, est l'individualisme et son couronnement qui est la mort. Dans ce cas-là, le corps humain agit comme la forteresse d'un moi empêchant l'hypostase de s'affirmer comme amour, but ultime de la communion des êtres. L'aboutissement naturel de l'hypostase biologique du corps humain est la mort. L'homme naît comme un fait hypostatique, un corps, mais ce fait est profondément lié à l'individuité et à la mort. Saint Paul a exprimé l'angoisse de l'hypostase biologique devant la mort. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, il écrit dans la lettre aux Romains. Sans transcender l'hypostase biologique, l'homme ne peut pas dépasser la mort et la personne ne peut pas survivre. La raison pour laquelle l'hypostase biologique finit par la mort est certainement le péché. L'hypostase nécessite une nouvelle naissance pour qu'elle dépasse le mode de l'existence biologique et donc sa fin qui est la mort. Cette nouvelle naissance est le baptême, c'est-à-dire une renaissance constitutive d'une nouvelle hypostase. Ceci nous amène au deuxième mode d'existence de l'hypostase. L'hypostase de l'existence ecclésiale. Elle se réalise dans l'histoire, dans et par l'Église. Comparée dans l'ancienne littérature patristique comme mère. L'hypostase peut être qualifiée d'ecclésiale par le baptême conféré à l'homme. C'est par le baptême que l'homme est engendré dans l'Église comme personne. La caractéristique primordiale de l'Église est qu'elle met l'homme en relation avec le monde d'une manière non déterminée par les lois biologiques. Les chrétiens des premiers siècles ont exprimé le dépassement des relations créées par l'hypostase biologique en transposant dans l'Église les qualifications propres à la famille. Père, pas celui de la nature, mais celui qui est dans les cieux. Frère, non ceux de la famille, mais les membres de l'Église. Cela signifie un dépassement de l'hypostase biologique par l'hypostase ecclésiale. Ainsi, on peut comprendre les paroles de Jésus. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste, dans l'évangile de Matthieu. Par le baptême, le chrétien se tient en face du monde et, en tant que personne, il existe en relation avec le monde. Donc, le chrétien se libère de toute relation impliquée par son identité biologique en passant à travers le baptême. Cela signifie qu'il peut enfin aimer, sans y être obligé par les lois biologiques, ce qui est inévitablement le cas de l'amour des proches, et qu'il est libre de toute loi naturelle. De cette façon, l'homme, comme hypostase ecclésiale, prouve que ce qui est valable pour Dieu peut l'être aussi pour lui-même. La nature ne définit pas la personne. C'est la personne qui permet à la nature d'exister. La liberté s'identifie à l'être de l'homme qui est libéré par la nécessité ontologique de l'instinct naturel et de l'individualisme couronné par la mort. Saint Maxime le Confesseur a exprimé cette idée en employant la diade logos tropos, parole mode. Le logos, la parole de la nature, qui ne change pas, est le mode innové de la nature. Sur ce point, on note qu'il y a une dimension éthique de la théologie de la divinisation parce qu'il y a un rôle déterminant de la disposition du vouloir et du choix de la personne dans la forme que prend le mode, s'accordant ou non à la parole de la nature, au logos de la nature. Si l'on parle de la vertu cardinale de l'amour, il faut noter que la possibilité pour la personne d'aimer sans exclusivisme est caractéristique de l'hypostase ecclésiale. Ce n'est pas par conformité à un commandement moral, mais par constitution hypostatique, par le fait que sa nouvelle naissance dans la matrice de l'Église a rendu la personne membre d'un réseau relationnel transcendant tout exclusivisme. Cela signifie que l'homme ne peut s'exprimer comme personne catholique qu'à l'intérieur de l'Église. Cette catholicité de la personne signifie que chacun des membres de l'Église devient Christ et Église éloignée du mode d'existence biologique qui l'amène à l'individualisme et à la mort. Comme on peut lire plus bas, ce devenir, donc c'est une théorie qu'on peut amplifier, mais ce que je peux dire, ce devenir Christ et Église est réalisé par excellence dans l'Eucharistie. Il faut noter aussi que lorsque nous disons que la personne humaine devient Christ et Église, nous n'entendons pas dire qu'il y a une capacité inhérente à la nature humaine, lui permettant de devenir meilleure et plus parfaite qu'elle ne l'est présentement. Toute possibilité pour la personne d'être considéré comme expression ou conséquence de la substance ou de la nature de l'homme est exclu. La personne véritable, en tant qu'hypostase ecclésiale, ne proviendra pas d'une évolution biologique ou historique du genre humain. Alors les lois du mode d'existence ecclésiale ne suivent pas les lois biologiques, les lois de la nature. Comment on peut comprendre la relation entre l'hypostase d'existence biologique et l'hypostase d'existence ecclésiale? Car l'expérience nous enseigne que même lorsque l'hypostase ecclésiale se réalise à travers le baptême, l'homme naît et meurt selon son hypostase biologique. On peut donner une première explication en notant qu'ici nous avons le paradoxe de l'existence humaine. L'homme, en tant qu'hypostase ecclésiale, apparaît non tel qu'il est, mais tel qu'il sera. L'hypostase ecclésiale est liée à l'eschatologie, donc à l'aboutissement final de l'existence humaine. En même temps, l'attente de ce qu'il sera est déjà présent dans la réalité de l'existence ecclésiale. Nous avons ici la dialectique du déjà et pas encore. Nous pouvons amplifier cette idée, mais il n'y a pas le temps. L'homme, en tant que personne, cette explication, on va à la notion de l'Eucharistie plutôt. L'Eucharistie qui est centrale dans la pensée de Zizioulas. L'Eucharistie comme rassemblement, synaxis, constitue une communauté, un réseau relationnel à l'intérieur duquel l'homme existe non seulement selon la nécessité ontologique et l'exclusivisme qu'entraîne l'hypostase biologique, mais également comme membre d'un corps qui transcende tout exclusivisme biologique ou social. C'est dans l'Eucharistie que la théologie patristique a vu se réaliser historiquement le principe philosophique qui régit le concept de la personne, à savoir que l'hypostase exprime la totalité de la nature et non seulement une partie. Là, le Christ est partagé, mais non divisé. Chaque participant devient le Christ total et l'Église totale dans l'expérience eucharistique. Ainsi, l'identité ecclésiale, dans sa réalisation historique, est eucharistique. On ne peut pas comprendre le mode d'existence ecclésiale sans parler et développer l'expérience eucharistique, le sens de la participation à l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas seulement un rassemblement au même lieu, c'est-à-dire réalisation d'une manifestation historique de l'existence eschatologique de l'homme. Elle est simultanément mouvement, marche vers cette réalisation. Rassemblement et mouvement sont les deux caractéristiques fondamentales de l'Eucharistie, les deux pierres de base de la théologie eucharistique de Père. Et de nouveau, c'est la théologie de Saint Maxime le Confesseur qui développe cette idée magnifiquement. Il a écrit, Saint Maxime le Confesseur, comme vous savez, un traité qui porte le titre Mystagogie, et il explique exactement le sens de l'Eucharistie. Il est le théologien par excellence de l'Eucharistie, je dirais. La signification pratique de tout cela est la suivante. Le corps humain, en tant qu'hypostase ecclésiale, exprime dans l'Eucharistie la personne véritable. Pourquoi ? Parce que le corps dans l'Eucharistie se libère de l'individualisme et de l'égocentrisme de l'hypostase biologique et exprime la communion par excellence en devenant corps du Christ, corps de l'Église, corps de l'Eucharistie. Il est ainsi prouvé par l'expérience que le corps n'est pas un concept négatif, mais un concept d'amour et de communion. En tant qu'hypostase ecclésiale, le corps transcende non seulement son individualisme, mais même sa propre désintégration, c'est-à-dire la mort. En tant que corps de communion, il est délivré des lois de sa nature biologique, donc de l'individualisme et de la mort. L'existence ecclésiale de l'homme, le fait qu'il est hypostasié selon le mode eucharistique, constitue ainsi une garantie des arts de la victoire finale de l'homme sur la mort. Et ce sera la victoire de la personne, non de la nature. Autrement dit, la victoire de l'homme, non dans son autosuffisance, mais bien dans son union hypostatique à Dieu. Et en définitive, la victoire du Christ, qui est l'homme de la christologie patristique. L'incarnation, la croix et la résurrection du Verbe feront jaillir dans cette vie mêlée de mort, dans cette vie toujours victorieuse et toujours vaincue, une vie mêlée d'éternité, où l'homme est appelé à s'associer à la victoire définitive. L'hypostase eucharistique n'épuise pas son être dans ce qu'elle est maintenant, mais elle plonge ontologiquement ses racines dans l'avenir, dont la garantie et les arts sont constitués par la résurrection du Christ. Chaque fois que l'homme goûte dans l'Eucharistie l'expérience de cette hypostase, il est confirmé dans cette certitude. Finalement, la personne hypostasiée par l'amour, libérée de la nécessité et de l'exclusivisme biologique, ne mourra pas. Lorsque la communion eucharistique maintient vivante la mémoire de ceux qui nous sont chers, morts ou vivants, elle n'entretient pas un souvenir psychologique. Elle procède à un acte ontologique en affirmant que finalement la personne transcendra la nature, comme ce qui initialement le cas pour le Dieu créateur. Ça veut dire que la transcendance de la nature humaine par Dieu offre à l'homme la grâce de l'incarnation, pour que l'homme devienne Dieu par la grâce. C'est ça le fait ontologique du salut dans lequel se réalise la personne humaine par participation à la réalité de la vie divine. Est-ce qu'il y a encore de temps?
Je peux vous donner encore 5 minutes.
5 minutes. Alors, je dois vous dire quelques mots uniquement sur la deuxième partie du thème que vous avez proposé, les défis d'aujourd'hui. Comme vous comprenez, je choisis d'approcher le thème du côté théologique. Alors, je vous donne cette version théologique. Je pourrais parler de la sociologie, etc. Mais c'est mieux pour moi de vous proposer, comme le défi d'aujourd'hui, un défi proposé au XIVe siècle, déjà par un théologien grec, byzantin, qui nous a donné un exposé magnifique de l'anthropologie et du sens de l'Eucharistie. C'est un théologien qui inspire beaucoup aujourd'hui les théologiens de notre temps. Son nom, Nicolas Cabasillas. Et Nicolas Cabasillas a écrit un traité qui porte sous le titre « La vie spirituelle de l'homme en Christ ». C'est traduit aussi en français. Les francophones sont heureux parce qu'il y a beaucoup des études théologiques, des théologiens modernes, grecs, qui sont traduits en français. Alors, Nicolas Cabasillas donne comme réponse à cette question, quel est le défi de l'anthropologie? Quel est le défi pour l'homme? Il donne un mot comme une réponse. C'est le renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel. Et j'ai un exposé qui requiert 12 minutes, alors je n'ai pas le temps de lire tout, mais il nous propose deux notions. La notion des pensées, le renouvellement des pensées, et le renouvellement de la volonté de l'homme. Donc, le renouvellement ne peut pas être une loi qui vient de l'extérieur, mais c'est une nécessité intérieure de l'homme qui cherche de s'unir, de comprendre la présence de Dieu et de s'unir à Dieu. C'est une question d'unification et de purification. Voilà, il donne cet ensemble d'une théologie qui est illuminée par l'expérience eucharistique. Il est le théologien de l'Eucharistie par excellence, Nicolas Cabasillas. Alors il laisse la lumière de l'expérience eucharistique entrer dans l'âme humain pour illuminer l'intellect, pour que les pensées soient purifiées et pour que la volonté soit corrigée, pour que le choix que l'homme fait soit selon la volonté de Dieu, pour que la volonté humaine soit unie à la volonté de Dieu. Et je vous lis là le paragraphe final. On peut dire ici que le défi pour l'homme, selon la tradition patristique et son renouvellement, c'est la communion avec le Christ qui renouvelle l'homme, lui donnant un nouvel être, une nouvelle énergie, vie, connaissance, une volonté, tout un organisme transfiguré à l'image du Christ, avec ses sens spirituels, avec les charismes de l'Esprit-Saint, avec les nouveaux modes de fonctionnement qu'il permet, autant de points correspondants aux chapitres essentiels d'une anthropologie christologique de l'Église d'Orient. Merci.
Merci à vous.